Bonjour à tous. On va commencer par écouter le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car je dis, tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'atteindra, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. C'est un psaume qui est absolument magnifique. C'est un psaume qui me touche beaucoup. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et déjà là, il y a presque tout le psaume est dit en cette seule phrase. Il y a une telle sérénité qui se dégage de cette image. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et dans un monde où il y a tout qui change tellement vite, on ne sait pas tellement bien où on peut poser ses valises. Notre travail, peut-être que demain il disparaîtra, on sera viré par quelqu'un de plus performant, on sera remplacé par un robot, peut-être même que celui qui nous virera, ce sera un robot. Peut-être qu'on va devoir déménager dans une année ou deux. Peut-être qu'il y aura une guerre. Et peut-être que demain, le franc suisse ne vaudra plus rien du tout et que nos économies disparaîtront. Nous sommes dans un monde où on ne sait pas très bien en quoi se confier. Et là, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Où aller d'autre? Il est plus haut. Rien n'est aussi grand que lui. Alors si on se place sous son abri, de quoi va-t-on avoir peur? Et ça continue, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et là aussi, on est dans un monde qui va tellement vite. Ça change tous les jours. Tous les jours, on doit s'adapter au niveau de nos téléphones portables, des machines qu'on utilise au travail, des voitures, parce qu'on change de voiture, puis un nouveau gadget qu'on ne sait pas comment utiliser. L'électroménager. Tout d'un coup, la marque de farine qu'on utilisait n'existe plus. Et c'est fatigant, parce qu'on est toujours en train de courir. Et là, il y a cette idée, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. On a un repos auprès de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment bien partir en vacances dans le sud? Alors Marseille, c'est tout juste le sud, hein. Je parle vraiment du sud, encore plus loin. Est-ce qu'il y en a qui aiment partir en vacances dans des pays qui font chaud? Est-ce qu'il y en a qui partent en plein été? Quand c'est l'été dans ces pays-là. Oui. Et qu'est-ce qui fait quand c'est midi, et en plein soleil, on fait quoi? On fait la sieste et on la fait où? À l'ombre. Mais oui, c'est un truc qu'on a des fois un peu de la peine à comprendre en Suisse, parce que c'est pas toujours si chaud, mais quand il y a vraiment du soleil qui tape fort, ben on va se reposer à l'ombre. On ne va pas rester sous le soleil pour faire la sieste. Parce que si on reste sous le soleil, on devient tout rouge. Et c'est ça que dit ce psaume. Celui qui fait du Très-Haut son abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. On peut trouver un véritable repos, un repos qui est bon, qui nous protège de tout ce qui serait difficile à supporter, qui nous protège de toutes les attaques. Et je trouve ça absolument fantastique aujourd'hui de se dire, mais on a un refuge auprès de notre Dieu. Et dans ce psaume, il y a une majesté de Dieu qui ressort, qui est fantastique. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et c'est génial, parce que si on a des plumes, ben quand il y a un chat qui veut venir nous bouffer, je ne sais pas si vous avez déjà vu un chat essayer d'attraper un oiseau, ben il peut s'envoler l'oiseau. Puis nous, on peut même aller trouver notre refuge sous les ailes de Dieu. Il te délivrera du filet de l'oiseleur. C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Et dans la vie, il y a plein de dangers. Et ce psaume, on mentionne beaucoup. Il y a des dangers qui sont naturels, la maladie. Puis il y a des choses qui ne sont pas naturelles. Le filet de l'oiseleur, c'est des pièges. C'est des choses qui arrivent sur notre route. Et ben, si on n'a pas de l'aide extérieure, on va se faire choper. Je ne sais pas si vous avez déjà eu sur votre route des gens un peu sournois qui essayaient de vous piéger. Des fois, ça peut être un collègue qui ne vous aime pas, qui vous refile discrètement tous les dossiers compliqués, hein, puis qui se dit « on va voir comment il s'en sort celui-là avec ce dossier ». Ça peut être aussi des fois l'administration. Des fois, c'est pénible l'administration parce qu'on se sent piégé, parce qu'on ne sait pas par quel bout... Comment c'est ? Je me souviens de l'histoire d'un couple qui voulait faire reconnaître son mariage en Suisse. Puis c'était compliqué parce qu'il n'avait pas les papiers. Il s'était marié traditionnellement, selon les coutumes de leur pays. Puis en Suisse, il fallait un acte de mariage. Et c'est hyper compliqué. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? L'Éternel te délivre du filet de l'oiseleur. Il a une solution. Il est plus haut que toutes les personnes dans l'administration. Et il peut trouver une solution à nos problèmes. Même là où on a l'impression que c'est enfermé, il peut te délivrer du filet de l'oiseleur. Puis quand on est dans la vie, il y a des dangers qu'on ne remarque pas. Il y a des dangers qui avancent dans la nuit. Des fois, c'est des terreurs de la nuit, les questions des terreurs de la nuit. Tu ne craindras pas les terreurs de la nuit. Je ne sais pas, peut-être que certains d'entre vous, des fois, se réveillent au milieu de la nuit avec des peurs incompréhensibles. Des fois, dans la journée, ça arrive aussi. Il y a des peurs qui sont là, on ne les comprend pas. Des fois, c'est lié à une situation de vie, des fois, c'est lié à un stress, et des fois, c'est juste là, et il y a quelque chose qui nous angoisse. Et je pense que tous, à un moment donné ou à un autre, dans notre vie, dans la nuit, on est saisi d'une terreur. Parce que des fois, la nuit, c'est effrayant, on ne sait pas ce qui se passe. Nous avons un Dieu qui est plus fort que la nuit. On a un Dieu qui est plus fort que ces terreurs. Et dans ces moments-là, on peut se réfugier sous l'abri du Très-Haut, pour trouver en lui un secours. Et quand on est saisi de ses angoisses, on peut se dire, mais Seigneur, je viens vers toi, je viens trouver refuge près de toi. J'ai besoin que tu me donnes ta paix, j'ai besoin que tu chasses ces angoisses. Parce que je sais que c'est toi qui me délivreras, que c'est toi qui réglera cette situation dans ma vie. Et Dieu intervient. Il y a aussi des fois des attaques qui sont plus frontales. La flèche qui vole de jour. Et là aussi, Dieu est fidèle. Et sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. En Hollande, en 1944, la Gestapo frappe à la porte d'une maison. Parce qu'ils ont entendu dire qu'il y avait une famille qui cachait des Juifs, qui était active dans la rébellion. C'est la famille Tenblum. La famille est arrêtée. Heureusement, ils ne découvrent pas les 6 personnes qui étaient cachées dans la pièce secrète, des Juifs et des membres de la rébellion. Et commence pour Corrie Ten Boom une lente descente en enfer. Il commence par aller en prison, puis ils sont déportés au camp de concentration de Ravensbrück. Le père de Corrie Ten Boom récite ce psaume. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivrera du filet de l'azeleur, de la peste et de ses ravages. Dans le camp, c'est l'enfer. Il y a des gardes avec des mitraillettes partout. Ils sont enfermés dans des taudis où même les gardes n'osent pas entrer parce qu'ils savent que s'ils entrent, ils risquent de tomber malades. Les gens meurent. Il y a parfois plusieurs cadavres qui sont là, en face de Corrie Ten Boom, les yeux ouverts. Chaque jour, ils vont alimenter les fours crématoires. Le père de Corrie Ten Boom ne survit pas longtemps. Et il répète ce psaume, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse. » Corrie Ten Boom a la 50aine à ce moment-là. Son père, j'imagine, 70 ans ou plus. Et alors qu'il va mourir, il récite ce psaume et il s'adresse à ses gardiens et dit « Mais c'est un honneur de mourir pour le peuple juif. » Et il meurt. Et Corrie était témoin de cela. Avec sa sœur, elles ont trouvé une Bible. Elles ont réussi à préserver une Bible. Et puis sa sœur la prend. Et dans leur dortoir, où les gardes n'osent pas entrer, par peur de tomber malade, ils commencent à lire la Bible ensemble, à prier. Quelque temps plus tard, c'est la sœur de Corrie Ten Boom qui meurt. Pendant tout ce temps, Corrie se rappelle de ses cultes familiaux où ils étaient ensemble en famille et où ils lisaient la Bible, où ils priaient ensemble. Alors elle prend cette vieille Bible qui est là et elle se met elle aussi à lire avec les autres prisonnières. Je ne sais pas ce qu'elle lisait, mais peut-être qu'elle lisait ce psaume. « Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. » De mes lèvres, j'énumère toutes les sentences que tu as prononcées. J'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors. Je médite tes décrets. J'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions. Je n'oublie pas ta parole. Et alors que c'est le noir le plus complet, il y a une petite lumière qui jaillit dans ce camp de concentration. Et tout d'un coup, Corrie Ten Boom est libérée. Une erreur administrative, et elle est délivrée, elle peut partir du camp de concentration. Incroyable, inimaginable. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et elle se met à raconter son histoire. Elle se met à parcourir la terre en disant « Mais Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et ce que Jésus-Christ il a accompli sur la croix est véritable. Et on peut se pardonner les uns aux autres. Il faut laisser sa jalousie de côté. Il faut laisser sa rancune de côté. » Il faut pardonner à ceux qui nous ont fait du mal. Et elle va sillonner la terre avec ce message. Vous imaginez? Elle a vu son père mourir sous ses yeux. Elle a vu sa sœur mourir sous ses yeux. Elle a vu des cadavres couchés devant elle, les yeux ouverts. Et elle va en disant, mais il y a une espérance en Jésus-Christ. Le nom de Christ est plus fort que la mort. Un jour, à l'issue d'une de ces conférences, il y a deux personnes, je ne sais pas si c'est au même moment, mais qui se sont retrouvées là et qui sont venues lui serrer la main. Il y avait la famille, la personne qui les avait dénoncées quand ils cachaient les Juifs, qui était là. Elle lui a serré la main. Il y avait le bourreau du camp de concentration. Cet homme avec la mitraillette, cet homme qui n'osait pas rentrer dans le dortoir de peur de tomber malade. Cet homme qui a participé à la mise à mort de toutes les personnes qu'elle a vues mourir, et plus particulièrement de son père, de sa sœur. Elle lui a serré la main et elle l'a pardonné. Parce qu'elle était convaincue que Jésus-Christ était capable de réconcilier les gens. Elle était convaincue de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Elle était convaincue que Dieu était son refuge et qu'elle pouvait pardonner parce qu'elle demeurait auprès de lui et qu'auprès de lui, elle avait la paix. Et c'est une histoire que je trouve très poignante et en même temps assez incompréhensible. Pourquoi son père est-il mort dans cette concentration? Pourquoi sa sœur est morte? Et pourquoi Corrie a été délivrée? Les trois, ils avaient la même foi. Les trois, j'imagine, ont récité ce psaume. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pourquoi Corrie ne s'est-elle pas indignée de ce qui s'était passé en disant, mais Seigneur, si tu existais vraiment, mon père ne serait pas mort dans ces conditions, ma sœur ne serait pas morte, je ne me serais pas fait arrêter. J'aimerais lire un autre texte en Hébreux 11. Hébreux 11, versets 32 et suivants. Et que dirais-je encore? Le temps me manque en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson. Là, l'auteur de l'Épître aux Hébreux est en train de parler de ces héros de la foi qui ont fait des grandes choses que Dieu a utilisées pour manifester sa puissance. Le temps me manque en effet pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephté, de David, de Samuel et des prophètes. Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite une armée étrangère. Des femmes ont retrouvé leur mort par la résurrection. D'autres ont été torturées et n'ont pas accepté de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres encore ont subi les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, sciés, mis à l'épreuve. Ils sont morts, tués par l'épée. Ils sont allés d'un endroit à l'autre, habillés de peaux de brebis ou de chèvres, privés de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, Ils erraient dans le désert et les montagnes, dans les grottes et les abris de la terre. Tout cela, bien qu'ayant reçu un bon témoignage grâce à leur foi, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, car Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Ainsi, ils ne devaient pas parvenir sans nous à la perfection. Corée avait une espérance qui allait bien au-delà de ce monde présent. Et elle savait que ce qu'on peut vivre aujourd'hui, les délivrances qu'on peut vivre aujourd'hui, ne sont rien par rapport à ce qu'on vivra quand Christ reviendra. Puis on peut se demander, mais est-ce que la Bible se contredit? Parce que dans ce psaume 91, il est dit, mais aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. L'Éternel ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et il y a un moment donné où Jésus, on peut trouver ce texte en Matthieu 4, je crois, où Jésus est tenté dans le désert. Et puis, Satan le transporte au temple, il dit, mais saute en bas, parce qu'il a écrit, il ordonnera à ses anges de te porter de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Citation du psaume 91. Et Jésus dit, mais tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu en vain. Et ce psaume ne parle pas de l'absence totale de difficultés. Parce qu'à la fin, il dit, mais puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Attends, s'il n'a pas de difficultés, de quoi est-ce que Dieu va le délivrer? Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. S'il n'y a pas de danger, de quoi serions-nous protégés? Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. S'il n'y a pas de souci, s'il n'y a pas de problème, comment est-ce que Dieu sera avec nous dans notre détresse? Et Dieu peut aller jusqu'au fond de nos détresses. Parce que quand ils se retrouvaient dans ce camp de concentration pour lire la parole de Dieu, ils étaient entourés de choses qu'on ne peut même pas imaginer. Où nous, on n'oserait même pas mettre les pieds. Et Dieu était là. Dieu n'a pas eu peur d'aller avec elle jusque dans le camp de concentration, jusque dans son lit, jusque dans sa chambre. Et dans nos détresses, c'est la même chose. Il est avec nous. Il est là, présent. Et il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi Dieu délivre l'un et pas l'autre, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que quand on demeure sous l'abri du Très-Haut, on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et Dieu nous accompagne et il nous donne une foi capable de traverser ces épreuves. Et on sait qu'à la fin, il nous rassasiera de longs jours et il nous fera voir son salut. Et pendant les épreuves que nous traversons, nous pouvons demeurer en paix parce qu'on sait qu'il est là. Et si on met de côté tout cet aspect de la souffrance, tous ces gens qui ont été coupés par des scies, alors qu'ayant la foi, la même foi qui a aidé des gens à vaincre des armées, je crois qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre de Christ. Parce que Christ, il est venu. Il a marché selon les commandements de Dieu et il a fini sur une croix. Des fois, nous, on croit qu'en tant que ses disciples, notre sort sera différent. Non. S'ils ont traité notre maître comme ça, nous aussi, on aura des problèmes. Mais dans ces épreuves, Dieu sera là. Dieu nous protégera. Dieu nous conduira. Et j'ai vu des chrétiens animés de la foi qui ont été guéris de maladies. J'ai vu des chrétiens animés de cette même foi qui ont lutté contre la maladie. Même certains sont morts. Mais ils avaient cette paix que Jésus les conduisait ailleurs. Je me souviens de de ce vieux pasteur avec qui j'avais passé du temps, peut-être que certains l'ont connu, Samuel Grosjean, quelques semaines ou quelques mois avant son décès, il avait un cancer. J'étais chez lui et il était en train de siffler puis de chanter. Alors qu'il savait qu'il avait son cerveau, il était en paix, il était joyeux. Parce qu'il savait où Dieu le conduisait. Il savait qu'il lui ferait voir son salut. Et je crois que des fois la foi, c'est un peu comme une allumette. Vous savez, Jésus-Christ est venu accomplir les promesses. Jésus-Christ est venu nous donner ce que Dieu avait promis pour nous. Puis le feu, c'est bien, c'est agréable, ça réchauffe. Puis on voit les promesses de la Bible. Puis on se dit, mais oui, elles sont là. Mais il manque un petit peu quelque chose. C'est un petit peu comme une allumette. Parce qu'on allume. Et puis, il nous dit, tiens, j'ai accompli les promesses. Puis nous, on prend ça, puis on se dit, bon, c'est cool, j'avais envie de me chauffer, j'avais envie de me faire un plat de spaghettis. Je vais faire comment avec ça? Mais quand Christ il va venir, cette allumette, elle va tomber dans une botte de foin. Et c'est là qu'on va comprendre ce que ça veut dire, toutes les promesses. Ce qu'on voit, c'est juste partiel. Ce n'est pas que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas que le feu de cette allumette n'est pas un vrai feu. Ce n'est pas que les promesses n'ont pas vraiment été accomplies en Jésus-Christ. Mais c'est que quand il reviendra, ce sera pleinement manifesté. On aura chaud. On pourra se faire un bon plat. Plaçons notre confiance en Dieu. Il va nous conduire, chacun selon sa voie. Il y en a un qui va peut-être traverser beaucoup de souffrances et l'autre pas du tout. L'important, c'est que nous placions notre confiance en Dieu. Et celui qui passe dans les souffrances et celui qui n'en a pas se verront que Dieu les conduit et accomplit ses promesses dans leur vie. Et il y a une délivrance qui est possible. C'est le très haut Dieu. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et il peut très bien te délivrer de ta maladie, de tes problèmes financiers. Et puis peut-être qu'il a autre chose de prévu pour toi. Peut-être qu'il veut te fortifier par une épreuve. Peut-être qu'il veut fortifier ta foi au travers de difficultés. Hier, on était avec quelques jeunes à la rencontre de jeunesse. Il y avait un temps de louange et il y avait une sono de malade. Vous savez, quand il y a les basses, ça fait des petits gliglis dans le ventre. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Ouais, ça fait boum, c'est le sol qui tremble, ça fait gliglis dans le ventre. Et c'est génial, et on a pu prendre un temps pour louer Dieu. Et je me dis, mais dans des circonstances comme ça, c'est super facile de sentir la présence de Dieu. Et je crois que Dieu était vraiment présent. Mais quand on est tout seul dans sa chambre, est-ce que Dieu est moins présent? Mais non, il est le même, il est là. Et dans nos vies, c'est un peu la même chose quand on a une crise de couple, qu'on a prié, puis que Dieu nous en a délivré. Ben on se dit, waouh, alléluia, gloire à Dieu, Dieu est vivant, Dieu est puissant. Puis deux semaines plus tard, on a de nouveau un problème. Puis là, on se dit, ah, mais Seigneur, où est-ce que tu es? Délivré du cancer, guéri. Waouh, alléluia, gloire à Dieu. 3 ans plus tard, une autre maladie. Mais Seigneur, où est-ce que tu es? Délivré de la pornographie. Waouh, alléluia, gloire à Dieu. 1 année, 2 ans plus tard, les tentations reviennent. Seigneur, où est-ce que tu es? Allez, demeurez sous l'abri du Très-Haut. Et vous aurez une constance dans votre foi, dans la victoire de l'épreuve, et quand il faudra de la persévérance pour vous battre jusqu'au bout. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, je le glorifierai. trouver refuge. Trouvons refuge auprès de Dieu. Allons nous mettre sous l'abri du Très-Haut. Demeurons dans notre maison auprès du Père. Et on sera en paix. On reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Seigneur, tu es notre Dieu. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi l'un est délivré et l'autre pas? Pourquoi l'un souffre et l'autre pas? Seigneur, nous avons envie de demeurer auprès de toi. Nous savons que tu es le Dieu très haut. Qu'au-dessus de toi, il n'y a plus rien parce que tu es le plus grand. Que tu vois toutes choses. Que ta main peut aller partout. Et nous voulons demeurer auprès de toi. Nous voulons nous placer sous ton ombre, sous ta protection. Seigneur, viens fortifier notre foi. Afin que, au jour du malheur, notre assurance reste en toi, afin qu'au jour du malheur, nous puissions continuer à témoigner de ton grand nom. Seigneur, tu connais les difficultés que nous traversons chacun dans nos vies, Seigneur. Nous t'en prions, viens nous délivrer, parce que tu l'as promis. Et Seigneur, nous nous rappelons que une espérance bien meilleure nous attend quand tu reviendras ou quand nous serons auprès de toi. Seigneur, nous sommes fiers de t'avoir pour Dieu. Amen. Je vous propose pour conclure simplement d'écouter encore une fois ce psaume et puis de repartir avec après. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras au pied le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai. Je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut.